Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous retrouvez Jérôme en direct pour le quiz biblique.
Ladies and gentlemen, welcome in the Bible quiz. Bonjour, Sandrine. Ok, il y a un appel, donc elle ne peut pas répondre, c'est pour ça. Chers amis auditeurs, et oui, c'est le quiz biblique, c'est parti, nous y sommes, nous y voilà, avec un petit temps d'interruption, voilà, pour les conditions de congé des uns et des autres, voilà, mais nous reprenons.
Deux personnes, nous avons Sœur Jacqueline et Jean-Mathieu qui ont répondu à l'appel.
Ouh là là, quelle rapidité. Bonjour Jean-Mathieu, bonjour Sœur Jacqueline Marie.
Bonjour.
Jérôme, il y a longtemps que je n'ai pas joué. Hein.
Alors, voilà.
Moi aussi, je n'ai pas joué, ça fait longtemps.
Hein. Voilà, ça fait longtemps qu'on a tous, et on n'a pas pu jouer, voilà. Donc, mais c'est le moment, c'est repris, c'est reparti. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir appelé. Alors Jean-Mathieu de Villefranche dans la région du Rhône et Sœur Jacqueline Marie de Suisse.
Oui. Ah.
Switzerland.
On va manger des petits Suisses alors.
Voilà, on va manger des petits Suisses. Et bien c'est parti, je crois.
Et Sandrine. Nous avons deux personnes en plus, Georges et Mireille viennent nous rejoindre aussi.
Oh là là. Alors bonjour Georges, bonjour Mireille.
Bonjour Mireille.
Alors Mireille.
Bonjour.
Mireille.
Bonjour.
Voilà donc Mireille en Alsace.
Oui.
Oui. Et Georges, bonjour Georges.
Vous nous appelez... Dans le nord, à Tourcoing.
Tourcoing. Eh bien voilà, donc on a quand même, voilà, dans le nord du nord, pas loin de la Belgique. Voilà, en tout cas, merci à tous les quatre. Du coup, on est quatre, c'est super, d'avoir appelé, d'être intervenu rapidement comme ça. Eh bien, on va commencer. Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Mathieu ou Sœur Jacqueline Marie qui a appelé en premier. Bon.
Je ne sais pas.
Sœur Jacqueline en premier, Jean-Mathieu, Georges et Mireille.
Ah, voilà, donc je n'ai pas mis dans le bon ordre. Ça commence bien. Alors, on va commencer avec Sœur Jacqueline Marie.
Une question pas trop difficile. Hein.
Alors, je vais prendre la plus difficile que je trouve, bien sûr, comme d'habitude. Non, je vais commencer par la première, Sœur Jacqueline Marie. Je vais commencer par la première qui n'est pas trop difficile, a priori. Alors, est-ce que vous êtes prête, Sœur Jacqueline Marie?
Oui.
Alors, quel est le nom que porte la Bible? Bible qui est le fruit du travail de différentes confessions chrétiennes, qui comporte des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Quel est le nom de cette Bible? Trois possibilités, Sœur Jacqueline Marie. Est-ce que c'est la Nouvelle Bible, ou bien la Parole de Dieu, ou bien la traduction œcuménique de la Bible? Quel est
pour
le
les
nom?
Deux, c'est la traduction œcuménique de la Bible.
Et oui, sans hésitation, Sœur Jacqueline Marie, c'est bien ça.
Elle est forte, là.
Ça commence très fort, et oui, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Avec
oui, s'il y a plusieurs confessions, c'est la traduction œcuménique.
Tout à fait, et TOB, on dit en abrégé avec les initiales, traduction de la Bible en français effectuée par des chrétiens.
C'est la TOB,
tout à fait, effectuée par des chrétiens de différentes confessions, qui a été publiée pour la première fois en 1975.
Imprimée chez nous.
Oui, ah oui, tout à fait. Et les traductions sont catholiques et protestantes pour les premières éditions. Hein.
Oui.
Catholiques, protestants pour les éditions de 1975 et 1988. Et il y a une révision en 2010. Et lors de cette révision, eh bien, des chrétiens orthodoxes, cette fois, se sont joints à la traduction. Et également de nouveaux textes deutérocanoniques propres à l'Église orthodoxe qui ont été ajoutés. Alors ça, j'ai découvert ça en préparant la question. Ces livres de la tradition orthodoxe, on a 3 Esdras, 4 Esdras, 3 Maccabées, 4 Maccabées, la prière de Manassé et le psaume 151. Étonnant, non? Voilà, donc effectivement, tous ceux qui ont en tout cas accès à la TOB, traduction œcuménique de la Bible, il y a quelqu'un qui fait le ménage.
Excusez-moi, c'est moi qui ai bougé une caisse.
Ah, c'est Georges.
Excusez-moi.
C'est rien.
Je ne fais pas spécialement le ménage. Je m'installe.
Voilà, donc c'est bien parti avec cette première question à Sœur Jacqueline-Marie. Très belle réponse. Nous sommes, je vous le rappelle, avec Sandrine, accompagnée de quelques animaux. Alors, on a perdu quelques animaux parce que ben, y en a qui sont partis en soins. Pour le vétérinaire. Ah, on a l'agneau, bien sûr, l'agneau.
Il y a la porte qui est ouverte, ils sont partis. Ils sont partis se promener.
Oui, alors, effectivement, il y en a déjà quand même pas mal. Ça va aller, je pense. Alors, on continue cette fois avec Jean-Mathieu.
Oui.
Jean-Mathieu, alors, que veut dire Jésus avec cette sentence ? Que veut dire Jésus avec cette sentence ? Aucun domestique ne peut servir de maître. Où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est dans Luc, chapitre 16, verset 13. Alors, deux seulement possibilités, hein, Jean-Mathieu. Premièrement, qu'il y a incompatibilité entre Dieu et l'argent. Deuxièmement, que les deux sont compatibles.
Ouais, je dirais la première, moi.
La première pour Jean-Mathieu. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord, Sœur Jacqueline, Mireille, Georges? Elle est un peu...
Il faut répéter.
Oui, que veut dire donc Jésus avec cette sentence, hein, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, hein, à la fois Dieu et Mammon, un Mammon
oui,
qui représente l'amour de la richesse. Alors, les deux réponses possibles, qu'il y a, Jésus veut dire qu'il y a incompatibilité entre Dieu et l'argent, ou bien que les deux sont compatibles. Il y a un tout petit piège peut-être.
Moi, je dirais les deux sont compatibles.
Les deux sont compatibles pour Mireille.
Oui, Georges, oui, Mireille. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y avait un petit piège, hein, Jean-Mathieu, c'était pas évident. Oui, voilà, la réponse, c'est que les deux sont compatibles. Pourquoi ? Parce que bah, Jésus ne dit pas qu'il faut, voilà, que l'argent, c'est mauvais en soi, mais qu'il y a le choix entre deux priorités dans sa vie, c'est-à-dire orienter sa vie vers les valeurs du royaume, vers Dieu, ou alors vers la sécurité matérielle. Et c'est la vie qui est en jeu. Voilà, on sait que dans Luc, on retrouve beaucoup de mise en garde hein, sur le danger des richesses.
Alors j'ai tort, alors.
Oui, c'était donc la deuxième réponse, mais effectivement, bon, tort complètement, mais c'est vrai que Luc a été peut-être celui des quatre qui a le plus insisté sur le danger
mais
des richesses.
Dans l'histoire, on peut se servir de l'argent, sans faire de... Par exemple, de donner au corps ou...
Voilà, par exemple, effectivement, Jean-Mathieu, on peut avoir de l'argent et en avoir un usage de charité. Tout
ah,
à fait.
C'est pour ça, j'ai pensé à ça, c'est pour ça que j'ai dit la première.
Voilà, mais c'est vrai qu'on peut en avoir, mais l'important dans le message qui est dit dans l'Évangile, c'est que Jésus n'exige pas forcément l'abandon de ses biens, de ses richesses, mais il signale le risque d'y attacher le cœur. Voilà, de devenir finalement...
Non, mais c'est ça, il ne faut pas s'attacher à l'argent que... peut s'attacher à Dieu que à l'argent.
Voilà, tout à fait. Alors, effectivement, la question était peut-être un peu compliquée dans le sens où, par contre, les disciples qui veulent vraiment suivre Jésus sur le chemin de sa prédication, là, il leur demande de tout laisser tomber, hein, à part le suivre. Mais pour les autres, non, il ne dit pas qu'il ne faut pas d'argent, il ne faut rien, mais il ne faut pas simplement y attacher son cœur. C'est le royaume qui compte, c'est le royaume en premier.
Ah ouais, c'est ça qui compte.
Eh bien, c'est parti, ce quiz biblique, Sandrine. Je n'entends pas beaucoup nos frères les bêtes, les bright. Ah. Alors, toujours dans l'ordre d'arrivée hein, des appels, c'est avec Georges que nous sommes maintenant.
Oui.
Georges. Alors, question suivante autour de lui, dans son cercle, cette fois dans son cercle rapproché, Jésus a choisi et appelé 12 hommes. Alors, quel sens a ce nombre de 12 dans la constitution de ce noyau de fidèles ? Alors, attention, Georges, plusieurs bonnes réponses possibles. Trois possibilités. Aucun sens en particulier pour ce chiffre 12. Première possibilité. Deuxième possibilité, il signifie l'Israël nouveau des derniers temps. Et troisième possibilité, il renvoie aux tribus de l'ancien Israël. Attention, plusieurs bonnes réponses possibles.
Moi, je dirais la dernière et l'avant-dernière. Les
eh bien,
douze tribus d'Israël.
Oui. Eh bien, c'est une excellente réponse.
Oui.
C'est la deuxième et la troisième. Bravo, Georges.
J'aurais dit la même chose.
Oui, ça renvoie. On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait les 12 tribus qui représentaient en fait la totalité hein, du peuple choisi et du peuple élu. En 12 tribus, et puis en même temps, c'est l'Israël des nouveaux des derniers temps, c'est ce que signifie Jésus dans le choix de ces 12 avec ce chiffre de 12. Très bonne réponse de Georges. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans la réponse
Rien du tout.
Ah oui, j'ai marqué rien du tout. Comment le savez-vous, Sœur Jacqueline-Marie?
Vous l'avez dit.
Voilà, institué. Non, c'est vrai que ce choix symbolique hein, de ce nombre n'a pu échapper à personne du temps de Jésus. C'est-à-dire que instituer un groupe de 12 hommes, c'est signifier donc symboliquement l'Israël nouveau des derniers temps. Eh bien, nous allons tout doucement aller vers Mireille. Mireille, are you ready?
Yes.
Alors, attendez, je vois qu'il y a un SMS. Qui c'est donc? Eh bien, je ne vois pas. Voilà, peut-être que Sandrine aura accès.
Oui.
Alors, le judaïsme au 1er siècle, alors un peu avant la catastrophe. Ah, il y a quelqu'un qui a... On a perdu quelqu'un en route. Est-ce que c'est Mireille?
Non, pas moi.
Ah, bah ça tombe bien.
C'est Georges que nous avons perdu.
Alors, Georges, bien sûr, on invite Georges à ne pas hésiter à rappeler tout de suite. Voilà, donc Mireille, le judaïsme au 1er siècle. Alors, avant la catastrophe de 70, si vous en souvenez, il va y avoir quand même une grosse rupture en 70, hein, les armées romaines qui débarquent, qui vont détruire Jérusalem, ça va être la grande dispersion. Mais avant cette catastrophe de 70 au 1er siècle, ce judaïsme, il est très diversifié. Il est composé de plusieurs courants qui sont éclatés en une multitude de familles spirituelles. Si bien d'ailleurs qu'on devrait plutôt parler des judaïsmes plutôt que du judaïsme, au pluriel plutôt qu'au singulier. Alors, Mireille, il faut citer au moins un de ces courants, une de ces familles spirituelles. Alors là, je n'ai pas de A, B, C ou D. Hein. Voilà. Citer au moins un de ces courants de ce judaïsme du 1er siècle, ou une de ces familles spirituelles. Mireille, est-ce que vous avez une idée?
Pas du tout.
Not at all. Allez. Alors, on a les évangiles, hein, attention, c'est des courants. Jésus va rencontrer des personnes hein, quand il va sur le chemin de sa prédication. Bien sûr, des juifs de son temps qui appartiennent à des familles. Des familles, pas au sens la famille, le père, la mère et l'enfant, mais des familles spirituelles, des groupes. Des groupes. Oui. Alors, on en connaît plusieurs. Et c'est ce qui a fait dire aux spécialistes qu'il y avait plusieurs judaïsmes en réalité, puisqu'il y avait plusieurs courants. Alors peut-être, si Mireille ne voit pas pour l'instant, peut-être Sœur Jacqueline, peut-être Jean-Mathieu.
Et Georges est de nouveau aussi avec nous.
Et Georges qui est revenu.
Je dirais la deuxième, moi.
Ah, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas Jean-Mathieu.
Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de...
Là, y a,
les Sadducéens.
Là, c'est sans filet. Les Sadducéens, j'ai entendu, qui a dit ça?
Sœur Jacqueline.
Sœur Jacqueline, excellente réponse. Voilà, c'en est un, effectivement. Les Sadducéens. Alors, je suis sûr que maintenant, Mireille peut m'en citer un autre.
Il y a les pharisiens.
Eh oui, les pharisiens, un deuxième courant. Voilà, on peut...
Les Éphésiens, non, je sais, non.
Alors, pas les Éphésiens.
Les
Alors, les pharisiens, les Sadducéens, mais on peut citer, par exemple, les Zélotes.
Et les Chaldéens, pas du tout.
Les Chaldéens.
Oui.
Non, ça viendra, cette dénomination, je crois qu'elle est plus tardive dans le christianisme au Moyen-Orient. Les Esséniens, je pense que c'est peut-être...
Esséniens.
Ce que voulait dire peut-être Jean-Mathieu, les Esséniens aussi. Bon, en fait, c'est pour montrer qu'il y avait effectivement quand même pas un seul judaïsme et plusieurs manières de vivre cette foi
judaïsme.
Juive, voilà. Eh bien, nous étions à l'instant avec Mireille et nous poursuivons et nous revenons vers Sœur Jacqueline-Marie, du coup.
Et petit SMS de Flo du Nord qui nous dit bonjour à Radio Maria, à tous, bon quiz biblique.
Ah, j'en étais sûr que c'était Merci. Flo, mais je ne pouvais pas ouvrir le... Bonjour Florence. Merci.
Merci Florence.
Alors,
elle nous soutenir.
Elle nous soutient à distance. Alors, Sœur Jacqueline-Marie, on va rester avec ces courants du judaïsme. Alors, justement, de tous ces courants qu'on vient de citer, hein, du judaïsme, lequel va se montrer le plus acharné contre Jésus, en portant d'ailleurs la responsabilité du projet de son élimination qui aboutira à la croix? Lequel de ces courants va se montrer le plus acharné contre Jésus? Trois possibilités, Sœur Jacqueline-Marie, les pharisiens, les zélotes ou les sadducéens?
Les pharisiens.
Les pharisiens, pour Sœur Jacqueline-Marie. Est-ce que tous les autres, vous êtes d'accord?
Les zélotes.
Les zélotes pour Mireille.
Esséniens.
Ils y sont, dans les trois. Je rappelle, pharisiens, zélotes, sadducéens.
pharisiens.
Moi, j'aurais pharisiens aussi. Ouais. J'aurais dit pharisiens.
Il y a une petite, oui, une majorité même, hein, claire et nette, hein, pour les pharisiens dans cette réponse. Eh bien non, ce sont les sadducéens, mes amis.
Ah, les sadducéens.
Et oui, parce que qui sont-ils ? Ils sont l'élite sacerdotale et à la fois laïque aussi d'Israël. Ces sadducéens, on les trouve où ? On ne les trouve pas en Galilée, hein, on ne les trouve pas à Capharnaüm, on les trouve concentrés à Jérusalem. Ce sont les familles des grands prêtres qui jouent un rôle déterminant.
Et les pharisiens étaient aussi farouches contre Jésus.
Oui, alors les pharisiens, c'était un peu plus compliqué, parce qu'il y avait des pharisiens opposés à Jésus ouvertement, il y avait des pharisiens qui étaient prêts à discuter avec Jésus, et il y avait des pharisiens disciples en secret. Donc les pharisiens, c'est pas monolithique. Par contre, les grands prêtres, les sadducéens, qu'on appelle les sadducéens, c'est des grandes familles en fait, de Jérusalem autour du temple. Ils sont pratiquement absents d'ailleurs durant l'activité galiléenne de Jésus, parce qu'ils ne sont pas en Galilée, ils sont tous à Jérusalem. Les sadducéens vont monter en puissance dans les évangiles lors des séjours de Jésus à Jérusalem. Et c'est la faction, parce qu'on peut parler de faction, sadducéenne du Sanhédrin, le grand conseil législatif, autour du grand prêtre, à laquelle se sont joints les scribes d'obédience sadducéenne et les anciens notables laïcs qui vont jouer tous un rôle déterminant dans les événements qui vont précipiter la condamnation de Jésus.
De Jésus.
C'est eux les plus farouches, opposants. Avec la complicité des Romains. Bon, là on n'en parlait pas des Romains, mais bon. Eh bien, nous continuons alors. On est dans quelle émission déjà, Sandrine ? Ah voilà, merci. Ça y est, j'ai perdu ma page. Hop, hop, hop.
Ah, petit mouton. Et pour Jean-Mathieu ?
Jean-Mathieu. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Mathieu ? Jean-Mathieu ?
Oui ?
Alors c'est parti, on continue. Et on reste avec ce courant. Alors Jean-Mathieu, à quel autre courant spirituel connu les sadducéens s'opposent-ils sur le plan religieux ? Donc ces sadducéens, non seulement on l'a vu à l'instant tout à l'heure, à la question précédente, vont être ceux qui vont vouloir condamner Jésus, mais ils s'opposent également à un autre courant. Trois possibilités, Jean-Mathieu, s'agit-il des Esséniens, des pharisiens ou des Hérodiens ? C'est pas facile, celle-là.
Répétez, parce que j'ai pas compris.
À quel autre courant spirituel connu, très connu, les sadducéens vont-ils s'opposer sur le plan religieux ?
Oui.
Alors, est-ce que c'est les Esséniens, est-ce que c'est les pharisiens ou les Hérodiens ?
Les Hérodiens.
Les Hérodiens pour Jean-Mathieu. Est-ce que les autres, vous êtes d'accord sur Jacqueline, Marie, Mireille, Georges ?
Moi, j'irais les deuxièmes.
Les pharisiens.
Esséniens.
Les Esséniens.
Ouais, moi, j'aurais dit les Esséniens aussi.
Eh bien, c'est sœur Jacqueline Marie qui a raison. Ce sont les pharisiens. Oui, il y a une petite bisbille, on va dire, ça comme ça. Ouais. Que ce ne soit pas très... Bon. Mais effectivement, les pharisiens et les sadducéens, ils n'ont pas la même conception. Pourquoi ? Parce que les sadducéens, eux, ils considéraient comme valable le seul Pentateuque, les cinq premiers livres, et la Torah, comme base vraiment de l'écriture et de la foi d'Israël. Il n'y a que ça qui compte. La Torah et rien d'autre. Ça, c'est le point de vue des sadducéens. C'était une sorte de fondamentalisme qui s'opposait donc à la tradition orale. Et cette tradition orale est une tradition interprétative. Elle appartient à qui ? Aux pharisiens. Eux, les pharisiens, ils avaient développé tout un courant de questionnement, de tradition orale dont les sadducéens ne voulaient pas entendre parler. Et en plus de cette différence, on sait que pour les sadducéens, la résurrection est pour eux une incongruité. Pourquoi ? Ils ne croient pas à la résurrection des morts, parce que ça n'apparaît pas dans les cinq premiers livres.
Ah bon ?
Alors que la foi résurrectionnelle, elle est présente chez les pharisiens. Donc on voit que c'est deux courants quand même qui ont des grosses différences.
Oui.
Qui pouvaient parfois faire l'objet de sortes de disputes.
Alors nous avons reçu plusieurs SMS, donc... Bonjour à tous, bravo à vous et je salue Jérôme et Sandrine. Soyez tous richement bénis et c'est Jeanne qui nous envoie ses premiers messages.
Ah, merci Jeanne.
Et deuxième message d'Elisabeth qui nous dit « Bonjour, un quiz biblique, j'aurais voulu participer aujourd'hui mais la ligne était occupée. Je suis l'émission. Voilà, alors la ligne est occupée parce que les quatre lignes téléphoniques sont occupées justement par tout le monde.
En tout cas, bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous,
merci.
Même si vous n'êtes pas là à répondre aux questions directement. Bon,
mais
merci
pour
en
une
tout cas.
Prochaine émission avec joie.
On est dans le cœur.
Voilà, donc on continue cette fois. Nous sommes avec Georges.
Georges, oui.
Cœur, comme on dit là.
Alors Georges, on va rester toujours avec ces courants. Hein, voilà. Alors même si la prédication de Jésus sur le règne de Dieu a retenu l'attention des zélotes, on a parlé tout à l'heure de ce courant des zélotes, qu'est-ce qui finalement va discréditer Jésus aux yeux des zélotes? Trois possibilités, Georges. Sa position non violente, ça c'est la première possibilité, ou bien son non-respect des rites de purification, ou troisième possibilité, son dialogue avec les pharisiens. Qu'est-ce qui va vraiment, peut-être à un moment, retenir l'attention, puis finalement rejeter, discréditer Jésus aux yeux des zélotes?
Je dirais la deuxième question.
Son non-respect des rites de purification.
Oui.
Est-ce que vous êtes tous
moi,
d'accord?
Je dirais la première, moi.
Sa position non-violente.
Voilà.
Moi, je dis le dialogue.
Le dialogue, la troisième. Et Sœur Jacqueline Marie?
Moi, j'irai la première.
Eh bien, c'est...
La non-violence.
Eh oui, c'est ça, la bonne réponse. C'est donc Jean-Mathieu et Sœur Jacqueline qui ont la bonne réponse, sa position non-violente. Eh oui. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les zélotes, ils étaient partisans du coup de force. Pour eux, il fallait restaurer Israël, et s'il le fallait, par la force. Chasser l'occupant romain, chasser les collaborateurs au temple, etc. Et oui, donc annoncer... Alors c'est sûr que les zélotes ont pu être attirés d'ailleurs par la prédication de Jésus au début, puisque annoncer le règne de Dieu comme le fait Jésus, c'est quand même pas anodin dans ce contexte culturel. On l'avait déjà vu dans d'autres quiz bibliques précédents. Un contexte assez tendu à l'époque. Hein. Alors on peut supposer que les zélotes partisans de l'opposition contre les pouvoirs en place ont pu être donc séduits au départ par le mouvement de prédication lancé par Jésus. Mais la position non violente de Jésus les détourne de lui. Et on sait après dans l'histoire que le mouvement zélote va se radicaliser de plus en plus avec le temps et deviendra même une insurrection armée dans les années 50. Alors on pense aussi au départ, certains historiens pensent qu'au départ il représentait l'aile dure des pharisiens. À la piété et à l'attente du royaume, ils ajoutaient une dimension activiste et violente. Voilà, nous sommes toujours dans le quiz biblique, chers amis.
Ah,
ça va être l'heure pour aller chercher le lait. De la traite.
C'est pour le goûter.
Pour le goûter. Pour la pâte à crêpes. Attention, Mireille.
Oui.
Mireille, question suivante. Alors, on est au début de l'évangile de Marc, cette fois. Et au début de cet évangile de Marc, on a un récit qui raconte que Jésus guérit un paralysé, qu'on lui amène par le toit, tellement il y a de monde dans et autour de la maisonnée. Alors, Jésus le guérit en lui disant « Mon fils, tes péchés sont pardonnés ». Alors, pour les scribes qui sont là, il y en a quelques-uns dans la foule, les scribes qui assistent à la scène, Jésus commet un blasphème. Pourquoi? Trois possibilités. Parce qu'il s'agit d'un jour de sabbat. Deuxième possibilité, parce que seul Dieu peut ainsi pardonner les péchés. Troisième possibilité, parce que Jésus n'a pas respecté les rituels de purification. Quelle est vraiment la raison qui fait que les scribes assistant à la scène, de cette scène de guérison, pensent que Jésus commet un blasphème?
Oh là là, je crois que c'était le jour du sabbat.
Jour du sabbat, ou parce que seul Dieu peut ainsi pardonner les péchés.
La deuxième, seul Dieu peut guérir, je crois.
Et oui, c'est la bonne réponse. Elle joue bien de la harpe quand même, Sandrine. Il faut quand même le reconnaître. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gratitude de la part des auditeurs.
Oh.
C'est beau quand même.
On va l'engager.
Quand c'est beau, il faut le dire. Hein, parce qu'on a tendance à dire, bon, ça va pas. On est toujours à la regarder ce qui va pas. Mais non, mais quand c'est beau, il faut le dire.
D'accord.
C'est une excellente réponse, bien sûr, parce que seul Dieu peut ainsi pardonner les péchés.
Oui.
Pour aller vérifier dans Marc, c'est au chapitre 2, verset 5. Pour le judaïsme, le pardon, il est lié au rite cultuel du sacrifice d'expiation qui est offert au temple. Alors, affirmer que Dieu pardonne, c'est pas une transgression de la part de Jésus. Le prêtre au temple, il procédait de la sorte, mais Jésus fait un pas de plus. Il déclare péremptoirement et sans repentance préalable de la personne que Dieu a pardonné. Et oui, parce que chez les Juifs, il fallait d'abord que la personne fasse acte de repentance. Et là, il n'y a pas d'acte de repentance. C'est pardonné. Sa formule inconditionnelle de pardon, d'ailleurs, ne se lit pas ailleurs dans la littérature juive et pas non plus dans la tradition religieuse de son temps. C'est vraiment Jésus qui instaure ça. Alors Dieu donne et on peut dire que Jésus prend sa place pour déclarer ce pardon. Et c'est ça qui choque les scribes qui sont présents, qui l'ont fait dire « mais c'est un blasphème que tu fais là ». Alors on peut se rappeler aussi que Jean-Baptiste avait rompu aussi avec le rituel sacrificiel du pardon des fautes. Mais lui, par contre, c'était son baptême qui était le sacrement du pardon. Par contre, pour Jésus, c'est sa parole, toute nue, sa parole. C'est beau, non ?
Oui.
Très joli.
Alors, nous étions avec Mireille et nous retournons vers Jean-Mathieu.
Moi, c'est Sœur Jacqueline. Sœur Jacqueline.
Sœur Jacqueline, pardon. Qui était la première
pas
à commencer.
Hein ?
Non, je ne vous oublie pas, Sœur Jacqueline. C'est moi qui me mélange toujours les pinceaux. Sœur Jacqueline, qu'est-ce que c'est cette question ? Ah, ben, elle est pour vous, Sœur Jacqueline.
Oh. Elle est facile alors. Non, elle est difficile.
Non, elle est un peu longue, mais elle n'est pas difficile.
Ah bon ?
Alors, on va parler du mot Amen. Mot Amen, dérivé de l'hébreu, qui signifie en vérité, c'est certain, et qui a toujours été en usage dans la tradition judaïque, avant d'ailleurs d'être adopté dans la liturgie chrétienne. Dans la Bible hébraïque, Amen est utilisé après une prière ou un ordre ou une bénédiction. D'ailleurs, nous avons continué cet usage, les chrétiens. C'est une réponse pour marquer l'accord à ce qui vient d'être dit. Tu l'as dit, Amen. Donc il s'agit généralement de la réponse d'une assemblée, souvent dans un contexte liturgique. Alors dans les évangiles et dans la parole même de Jésus, quel usage du mot Amen est fait ? Eh oui, parce que Jésus va faire un autre usage. Attention, plusieurs bonnes réponses possibles. Première réponse possible, Jésus ne l'utilise jamais, ce mot. Deuxième réponse, Jésus l'emploie fréquemment. Troisième réponse, Jésus l'emploie en introduction de sa parole.
La deuxième et la troisième.
Excellente réponse de Sœur Jacqueline.
Amen, amen, je vous le dis.
Amen, amen, je vous le dis.
Amen, je vous le dis, oui.
Et oui, Sœur Jacqueline Marie, c'est juste. Il l'emploie beaucoup et il ne l'emploie pas du tout comme le font les autres dans le contexte culturel de son temps. Il l'emploie en début. L'usage
c'est pour dire c'est la vérité de sa parole.
Exactement. Et c'est d'ailleurs alors les historiens qui étudient les textes ont été très, très surpris, triplement surprenant, parce que d'abord il est utilisé fréquemment par Jésus, le mot, ensuite il ne se lit que sur les lèvres de Jésus, et en troisième, il n'est pas, comme on dit, responsorial, en réponse, mais il est introductif.
L'affirmatif, oui.
Oui, et en introduction au début, il ne confirme pas la parole d'un autre, mais met en évidence la parole de Jésus. Et par cette expression, Jésus mettant en relief l'autorité de son unique parole. Alors là, les références, je ne les ai pas toutes citées, il y en a plein, Jean 6, 53, Matthieu 18, verset 3, etc. Alors dans certaines Bibles, on a parlé tout à l'heure de la Tob en commençant ce quiz, vous vous souvenez ?
Oui.
Eh bien, Amen est traduit par « en vérité, je vous le dis
oui. ».
Mais parfois, dans d'autres Bibles, on dit bien le mot Amen, Amen, je vous le dis, etc. Mais en tout cas, c'est le même sens. Excellente réponse de Sœur Jacqueline Marie. Où en sommes-nous au niveau du timing ? On est bon. Je cherche... Est-ce que quelqu'un a vu Jean-Mathieu ?
Oui, il est là.
Ah, Mathieu. Ça tombe bien.
On le voit, on l'entend.
je suis derrière la porte.
Voilà. Alors, Jean-Mathieu, cette question, la voici. Comment s'appelle la contribution financière des fidèles qui, alors dans la religion, est destinée à soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu. Comment s'appelle cette contribution financière des fidèles qui, dans la religion, est destinée à soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu ? Trois possibilités.
Oui.
Premièrement, la taxe sacerdotale. Deuxièmement, la gabelle. Troisièmement, la dîme.
La dîme.
Et oui, Jean-Marc.
Perfetto.
Perfetto. Ah, Jean-Mathieu, il peut être derrière la porte, mais les réponses fusent. Et oui, c'est la dîme ou décime, du latin decima qui veut dire dixième, c'est une contribution financière d'environ 10% versée en nature ou en espèces à une institution civile ou religieuse. Et cette taxe, elle était connue depuis l'Antiquité, elle est évidemment mentionnée dans la Bible, elle est en usage dans le judaïsme, le christianisme et l'islam aussi, pour soutenir les démunis et les serviteurs de Dieu. Alors son caractère obligatoire varie en fonction des cultures et des époques. Alors j'ai cité la gabelle dans les réponses, évidemment la gabelle c'est pas du tout, c'est hors contexte, puisque la gabelle c'était une taxe sur le sel en usage au Moyen-Âge, donc beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, voilà, taxe sur le sel. Et la taxe sacerdotale, c'est moi qui l'ai inventé. Ah, et bien nous continuons. Il faut tenir les rênes du cheval, hein, Sandrine, parce que s'il s'échappe, on est mal. Georges.
Oui.
Georges. Alors, on va continuer juste une question supplémentaire sur la dîme. Cette dîme, elle peut donc être versée en nature. Et il en existe une en particulier sur les plantes ou les aromates. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, on a un passage avec une invective de Jésus à l'encontre des scribes et des pharisiens. Sur quels aromates ou plantes apprend-on que les pharisiens versent et font prélever une dîme? Alors ça, c'est dans ce passage chez Matthieu, chapitre 23, sur quels aromates et plantes on apprend tout d'un coup dans le texte que les pharisiens versent et font prélever une dîme. Alors, attention, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Georges, le cumin, la menthe, le fenouil. Le cumin, la menthe, le fenouil.
Le hasard, je vais dire la menthe et le fenouil, mais c'est vraiment un tout hasard.
Alors, c'est pas faux, mais c'est pas complet.
Le cumin.
Le cumin.
Les trois, mais oui, c'est les trois. Oui, sur Jacqueline Marie, c'est les trois, effectivement. Le cumin, la menthe, le fenouil. Alors, vous pouvez aller voir ça dans Matthieu, c'est 23-23. C'est simple à retenir, 23, verset 23. Je vous lis le passage. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et oui, les pharisiens qui avaient étendu la pratique traditionnelle de la dîme aux produits les plus minimes de la terre. Alors Luc, de son côté, contrairement à Matthieu, lui, Luc ne va mentionner que la menthe. Mais il faut savoir que cette dîme pouvait inclure, en plus des plantes cultivées dans les jardins, les plantes sauvages, vous imaginez? Parce que la menthe, elle pousse à l'état sauvage.
Hop, bah, j'ai donné la troisième réponse alors.
Alors Jean-Mathieu a dit le cumin. Pour compléter la réponse de Georges, donc à Georges et Jean-Mathieu, à vous deux, vous avez trouvé la bonne réponse.
J'ai trouvé les trois.
Et Serge-Jacques Marie a dit les trois, exactement. Eh bien, on a peut-être encore le temps pour une question avant l'office des...
Mireille.
Serge-Jacques Marie, qui merci beaucoup, qui suit bien hein, l'ordre des questions des personnes à qui elle se réfère. Merci beaucoup, Serge-Jacques Marie. Alors, quelqu'un a-t-il vu Mireille? J'ai entendu son rire.
Oui, je suis là.
Mireille.
Elle est assise là.
Mireille est assise devant la porte. Alors que Mathieu est debout derrière la porte. Chacun a sa stratégie pour être prêt pour répondre. Alors Mireille, on va parler cantique, chanson, chant. De quel cantique de l'Ancien Testament est inspiré le Magnificat chanté par la Vierge Marie dans l'Évangile de Luc après l'Annonciation? Ce fameux Magnificat, trois possibilités, Mireille, attention. La première, le cantique d'Anne, mère du prophète Samuel. Deuxième possibilité, la prière d'Isaïe au chapitre 26. Troisième possibilité, le cantique de Moïse dans le livre de l'Exode.
Anne.
Et oui, sans hésitation, Anne. Nous terminons.
Oh là là,
Mireille. Elle a fait tomber la porte et la chaise.
Il y a
le
clair, hein.
Le Saint-Esprit qui a soufflé. Alors, oui, c'est le cantique d'Anne, mère du prophète Samuel. Vous pouvez trouver ce passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Alors j'ai juste noté quelques petits passages, parce que j'ai lu les deux, je me suis dit quand même en quoi celui-là rappelle le Magnificat, ou le Magnificat rappellerait celui-là. Alors Anne pria et dit « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, et le front haut grâce au Seigneur, la bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire. » C'est des passages, hein, trois petits points. « Les repus s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Ainsi, la femme stérile enfante sept fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures. » Voilà quelques extraits de ce cantique d'Anne dans le premier livre de Samuel, qui, dit-on, a été voilà, ce qui a inspiré ensuite le Magnificat, chanté par la Vierge Marie. Excellente réponse de tout le monde.
Merci.
Tout le monde. Et même ceux qui n'étaient pas là.
C'était facile. Hein.
Et même, je suis sûr qu'Elisabeth a bien répondu. Florence, qui est toujours occupée à faire des choses à gauche et à droite, mais elle donne quand même des réponses. En tout cas, merci infiniment à tous les quatre. Merci beaucoup. C'était vraiment sympa d'être si nombreux. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup
merci
Mireille, Sœur Jacqueline, Marie.
Merci
Georges. Merci Jean-Mathieu.
On vous remercie aussi pour vos efforts que vous faites.
Pour préparer des questions.
Voilà, et moi je vous remercie d'appeler, de jouer. Ça, c'est super. Merci, à très bientôt, soyez bénis.
À très bientôt.
Mon ami, vous passe le bonjour aussi.
D'accord.
Elle s'appelle Daniel.
Bonjour Daniel, merci beaucoup.
Bonjour Daniel, au revoir.
À tout bientôt.
À tout bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci Sandrine.
Merci Jérôme.
Merci l'agneau.